Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Lourdes à l'occasion du pèlerinage du Rosaire qui a débuté mercredi et qui se termine demain. Et pendant une heure, nous allons vous faire vivre ce pèlerinage de l'intérieur, ce pèlerinage du Rosaire, comme si vous étiez avec nous à Lourdes. Pour débuter cette émission, je vous propose d'écouter le frère Sylvain Détox, c'est le prédicateur du pèlerinage. C'est lui qui prêche durant ces 5 jours. À quelques jours de son départ pour Lourdes, il s'est confié à notre micro.
Bonjour frère Sylvain Détox.
Bonjour Timothée.
Vous êtes le prédicateur du pèlerinage du Rosaire qui débute le 5 octobre et qui se termine le 8 octobre. Votre rôle, c'est quoi en tant que prédicateur ?
Mon rôle, c'est d'essayer de communiquer cette flamme qui nous anime tous, normalement, dans la vie chrétienne. Cette flamme de la vie baptismale, mais qui a tendance parfois à vaciller, à nous donner l'impression qu'elle s'éteint. Et donc, un grand événement comme le pèlerinage du Rosaire, c'est l'occasion de réactiver la flamme chez les nombreux pèlerins qui viennent à notre rencontre.
Comment vous avez appris cette nomination ? Comment ça se passe ? On sait que ça change chaque année.
Oui, alors pour moi, c'était autour du 8 décembre dernier. Hein, la date m'avait marqué, puisque c'est une grande fête de la Vierge, où le frère Hugues-François Rovarino, le directeur du pèlerinage, m'a contacté, est venu à ma rencontre au couvent de Toulouse, pour me demander si j'accepterais d'être le prédicateur de l'édition 2022, celle d'aujourd'hui. Hein. Donc ça remonte à un peu plus de 6 mois maintenant. Et au cours de ces 6 mois, il y a eu beaucoup de travail en amont. Pour les pèlerins, le prédicateur, c'est celui qui donne l'homélie devant une très très grande assemblée sur le parvis ou à la basilique Saint-Pédis. En fait, bien sûr qu'il y a ces homélies à travailler auparavant avec un thème qu'on nous communique. Hein, mais il y a aussi maintenant beaucoup d'interventions à la périphérie du pèlerinage, comme par exemple une commande des éditions du Cerf, un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « La gloire des bons à rien ». Il y a une conférence à préparer pour le pèlerinage où je parlerai des erreurs de casting que fait le bon Dieu avec un point d'interrogation. Est-ce que Bernadette, est-ce que nous sommes une erreur de casting ? Et puis toutes sortes ensuite d'activités liées à ce qu'on pourrait appeler la galaxie du Rosaire chez les Dominicains. Il y a les équipes du Rosaire, il y a les confréries du Rosaire, il y a le bulletin du Rosaire, il n'y a pas que le pèlerinage du Rosaire. Et j'ai eu l'occasion depuis ces 6 derniers mois de faire pas mal d'interventions aussi, notamment dans le sillage du petit livre que j'avais écrit il y a 2 ans qui s'appelle « Petite théologie du Rosaire » et pour lequel on m'a pas mal sollicité ces derniers mois.
La thématique, le thème de ce pèlerinage du Rosaire 2022.
Donc, le thème des sanctuaires, c'est « aller dire aux prêtres ». Et les frères dominicains ont repris ce thème en lui donnant une coloration, je dirais, un peu plus dominicaine. C'est comme Bernadette, « aller dire ». C'est-à-dire, vous êtes des prêcheurs. Nous, les frères dominicains, notre nom, c'est les frères prêcheurs. Eh bien, en fait, tous les baptisés, ils ne le savent peut-être pas, mais tous les baptisés sont des sœurs et des frères prêcheurs en tant qu'ils sont chargés de transmettre par leur vie, par l'exemple qu'ils donnent, une parole qui leur a été confiée et qui doit être communiquée au monde entier, qui doit embraser le monde entier. Cette parole, c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle par excellence, l'évangile. Hein, c'est d'apprendre que nous ne sommes pas ici sur la terre par hasard, que nous sommes aimés de Dieu, que Dieu a envoyé son Fils dans notre monde par amour pour nous sauver. Il est mort sur la croix, il est ressuscité des morts, il a répandu son esprit d'amour dans nos cœurs et voilà ce que nous sommes chargés d'aller dire au monde.
Vous le disiez, vous aurez notamment la charge des homélies. Comment on s'y prépare ? Alors, comment vous les préparez, vos homélies ? Ce sera des homélies classiques ou vous allez essayer de les adapter quand même à ce...
Alors, en réalité, le prédicateur reçoit une grille auparavant. Donc, moi, je l'ai reçue dès le mois de décembre, où les organisateurs du pèlerinage ont déjà réfléchi bien en amont à l'orientation qu'ils veulent donner à chaque journée. Hein ? Donc le thème du pèlerinage, c'est comme Bernadette, aller dire, mais chaque jour, nous allons comme diffracter ce aller dire. Donc le premier jour, c'est comme des petits allaient dire. Le deuxième jour, c'est comme des serviteurs allaient dire. Le troisième jour, comme des blessés allaient dire. Et le quatrième et dernier jour, comme des prophètes allaient dire. Et les textes de la messe, ainsi que l'homélie, sont choisis à partir de cette entrée. Hein ? Donc déjà sur le site internet du pèlerinage, hein, rosaire.org, vous avez une présentation de cette manière d'avancer dans le pèlerinage, d'entrer dans le pèlerinage, hein, de progresser, parce que c'est aussi tout un chemin qu'on fait d'un jour à l'autre. Hein, et puis les pèlerins eux-mêmes, dans le livret du pèlerin, auront aussi toute cette progression qui sera indiquée.
Ce pèlerinage du Rosaire, c'est une grande fête, surtout après 2 années compliquées en raison de la crise sanitaire. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble.
Oui, je crois que vous me posiez la question du rôle du prédicateur. En tout cas, pour moi, cette année, il me semble que mon rôle, c'est de communiquer beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie de vivre pour un peuple qui a besoin de se relever de plusieurs crises successives qui ont comme lessivé notre tissu ecclésial. Et bien sûr, il y a la crise sanitaire, mais aussi il y a les affaires, hein, le rapport de la SIAZ, tout ça, ça a été quand même de très très grandes crises à traverser. Et il me semble qu'il est bon de nous rassembler et de nous laisser remplir, nous laisser gonfler par l'espérance que communique l'Esprit Saint.
J'aimerais qu'on parle des 2 livres que vous nous avez cités tout à l'heure. Le premier, c'est « Petite théologie du Rosaire », écrit il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ?
Eh bien, on y trouve l'idée que si on médite humblement les mystères du Rosaire, on peut devenir un bon théologien. Hein ? Souvent, les gens imaginent qu'être théologien, c'est être quelqu'un de très savant, à qui il ne reste plus beaucoup de cheveux sur la tête, qu'il faut faire des années et des années d'études. Alors, bien sûr, il y a la théologie académique, universitaire, hein, celle que nous étudions quand nous devenons prêtres, par exemple, celle que moi aussi j'enseigne maintenant, puisque je suis chargé de cours à l'Institut catholique de Toulouse. Mais cette manière de faire de la théologie n'est pas la seule. Hein. Et si chaque jour, chaque semaine, humblement, on médite la parole de Dieu, l'Évangile, et le rosaire, ce n'est pas autre chose, au fond, que la méditation des grands épisodes de l'histoire de notre salut, de la vie de Jésus, de Marie, eh bien, petit à petit, il se passe en nous comme une infusion de théologie. Dans ce livre, j'utilise l'image du thé, faire du thé. Vous savez, quand on aime le thé, on sait que c'est difficile de réussir du thé avec de l'eau froide ou de l'eau tiède. Il faut que l'eau soit très chaude, hein, voire bouillante. Et il se trouve que quand nous prions, notre cœur est comme porté à ébullition par l'Esprit Saint. Hein. On parle souvent dans les groupes de prière de l'Esprit Saint qui embrase nos cœurs. Hein, et bien, il y a une très vieille homélie qui utilise une image proche de celle-ci qui dit que l'Esprit Saint à la Pentecôte, en descendant comme un feu sur les apôtres, à porter leur cœur à ébullition. C'est ce qui se passe quand on prie. Eh bien, quand on plonge ensuite, comme les sachets de thé, les grands mystères de notre salut dans un cœur porté à ébullition, ces mystères diffusent toute leur saveur, tout leur contenu. Et c'est ça que je pense être la théologie, la petite et grande, en fait, théologie du rosaire.
Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est votre dernier. Il est sorti il y a quelques semaines, « La gloire des bons à rien ».
Oui, alors celui-là,
le titre est presque énigmatique.
C'est celui qui a été commandé par les éditions du Cerf pour le pèlerinage. L'idée, elle est très simple, hein, c'est que comme Bernadette allait dire, bon, Bernadette se trouve tout à coup porteuse d'une mission qui la dépasse, d'une parole qu'elle ne comprend pas elle-même, hein, quand elle doit aller porter le nom de la dame au presbytère. Et je suis sûr que si on avait demandé à Bernadette, mais tu étais prête, tu étais bien équipée pour cette mission, elle aurait dit, oh non, pas du tout, moi je suis une bonne à rien. Hein. D'ailleurs, elle l'a un peu dit comme ça quand elle disait plus tard à Nevers que la Sainte Vierge l'avait choisie parce qu'elle était la plus ignorante de tous les habitants de Lourdes à l'époque. Et si Marie avait trouvé quelqu'un de plus ignorant que Bernadette, c'est cette personne-là qu'elle aurait choisie. Bon. En fait, je me suis dit en méditant sur ce point que se rejouait ici ce qui s'était joué dans l'histoire de notre salut telle que la Bible la raconte, c'est-à-dire au fond depuis Abraham et même auparavant, hein, depuis Adam, si on veut aller jusque-là, les interlocuteurs de Dieu dans son grand projet de salut pour nous ne sont pas des flèches. Au point de départ, en général, on commence dans une grande médiocrité. Je vous donne l'exemple de Moïse, qui est peut-être le plus fameux. Enfin, rappelez-vous quand même que Moïse, la première chose qu'il dit à Dieu quand Dieu l'envoie en mission, c'est « Non, pas moi, envoie un autre porte-parole, parce que moi, je ne sais pas faire, moi, je ne sais pas parler. » Ou Gédéon, dans le livre des Juges, qui dit qu'il ne peut pas être celui que Dieu a choisi pour sauver le peuple d'Israël, parce que lui, il est un nabo, en quelque sorte. Il est le plus petit de sa tribu, qui elle-même est la plus petite du peuple d'Israël. Bref, comme le peuple est mis en échec, en défaite par les Madianites depuis longtemps, il ne voit pas comment lui, qui est si peu doué, va pouvoir réussir. C'est un petit peu ce qui va se rejouer avec le roi David, qui est le petit, le dernier, le gringalet, parmi les fils de Jessé. Avec les apôtres, rien de nouveau sous le soleil. Je vous rappelle quand même que Pierre est un très très grand pécheur et Marie-Madeleine aussi. Donc toutes ces sœurs, ces frères en humanité sont pourtant les gens que Dieu a choisis pour leur confier sa parole et les envoyer dire sa parole. Donc nous avons l'impression peut-être que nous ne sommes pas des flèches, nous avons l'impression peut-être que nous sommes des bons à rien par rapport à toutes les vedettes de l'évangélisation, tous les champions de la vie chrétienne qu'on fait parfois un peu mousser aussi dans les médias chrétiens. Et puis nous, on a l'impression qu'à côté, notre vie chrétienne est très terne, qu'on est des nuls de l'évangélisation. Eh bien, c'est pour ces gens-là, et dont je fais partie, que ce livre a été écrit.
Il y aura plusieurs séances de dédicaces lors de ce rosaire. C'est important aussi d'aller à la rencontre de ces bons à rien de l'évangélisation, comme vous dites.
Oui, et puis c'est l'occasion, si vous voulez, la dédicace d'avoir une rencontre personnelle, brève, mais parfois suffisante pour semer un mot qui va faire son chemin. Et on a des retours, parfois des mois, parfois des années plus tard, d'un mot qu'on a dit à une parole et qu'on a dit à une personne, une parole qu'on a dite à une personne. Et cette parole, elle a aidé cette personne et ça nous dépasse parce que, voilà, cette parole, elle vient pas de nous, elle vient de Dieu et nous, on est juste chargé d'aller dire, comme Bernadette, vous vous rappelez, moi, je suis pas chargé de vous convaincre, je suis juste chargé de vous le dire.
Merci beaucoup, frère Sylvain Détoc.
Merci, Timothée.
L'interview du frère Sylvain Détoc, le prédicateur du pèlerinage du Rosaire. Avant de retrouver mes deux invités, je le rappelle, c'est deux pèlerins du diocèse de Toulouse et de l'Aveyron. Elles nous partageront leur expérience, ça fait quelques jours qu'elles sont au Rosaire. Je vous propose une première pause musicale, on écoute l'Ave Maria de Lourdes.
Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, ave, ave Maria, ave.
Ave Maria,
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Nous sommes toujours en direct de Lourdes pour le pèlerinage du Rosaire 2022 qui a débuté mercredi et qui se termine demain déjà. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons tenter de vous faire vivre le pèlerinage de l'intérieur avec le témoignage de deux pèlerins. L'une vient du diocèse de Toulouse, l'autre du diocèse de Rodez. Celle qui vient du diocèse de Toulouse, c'est Marie-Hélène Ferracha. Bonjour à vous.
Bonjour Timothée.
Et celle qui vient du diocèse de Rodez, mais qui est aussi un petit peu du côté du diocèse du Gard, c'est Marie-Lise Laporte. Bonjour à vous.
Bonjour Timothée.
Merci déjà à toutes les deux. On sait que vous avez loupé la messe pour être en direct de cette émission Vivante Église. On sait que le pèlerinage du Rosaire, c'est beaucoup de rencontres. Et vous en êtes la parfaite illustration. Racontez-nous.
Oui, ben avec Marie-Lise, on s'est rencontrés il y a 4 ans pour la première fois. J'étais venue un peu en spectateur, je ne savais pas trop, j'étais venue en train toute seule. Je me retrouve dans un hôtel toute seule. Et là, le soir, pour le premier dîner, on me dit, si vous voulez, vous êtes la seule de Midi-Pyrénées, parce que dans le Rosaire, on est partagé en région. Vous êtes la seule de Midi-Pyrénées avec une autre dame. Est-ce que vous voulez bien partager la table ? Ben, j'ai dit oui, bien sûr. Et donc, je me suis retrouvée face à Marie-Lise. Et depuis, tous les pèlerinages, nous les faisons ensemble. Maintenant, nous partageons la même chambre. Ça revient un petit peu moins cher. Et puis, c'est fort sympathique de partager une tisane le soir et de faire le débriefing de la journée autour de notre tisane. Et puis, on essaie de se rencontrer dans l'année, mais on a du mal. Mais alors, du coup, on a du mal, on n'a même pas jamais réussi en 4 ans. Et on ne rattrape pas le pèlerinage Lourdes et nos retrouvailles. Et c'est vrai que Marie-Lise, c'est quelque chose qu'elle avait connu à travers sa grand-mère qui l'avait marquée. À Marie-Lise.
Marie-Lise, je vous laisse raconter.
Oui, je suis née à Toulouse et je suis venue avec mes parents. Donc, revenir à Lourdes, c'est aussi renouer avec l'enfance, avec la présence de mes parents autour de moi. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai perdu brutalement un frère très aimé. Et à ce moment-là, après les obsèques, je suis venue à Lourdes avec le train depuis Toulouse. Et j'ai eu ma première consolation. Et bon, et depuis, j'étais à la retraite et je suis venue avec le pèlerinage du Rosaire régulièrement, et je me suis aperçue en regardant des vieilles cartes postales que je m'étais inscrite dans les pas de ma grand-mère, qui était même au jubilé de 1908, et que elle se faisait des copines comme moi. Et je trouve vraiment ce que le père des Tocs nous a raconté tout à l'heure.
C'est très intéressant, oui. Parce qu'on va essayer. En fait, le but de ce pèlerinage, il est très concret. On nous demande de devenir des prophètes.
C'est fort quand même, de devenir des prophètes. Ça met une pression, une responsabilité.
Enfin, oui, mais comme Bernadette, je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. Et ça fait baisser la pression quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Moi, je vois dans mon village, l'église est fermée pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a pas grand monde. Parce que si vous l'ouvrez, il faut la fermer, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut la surveiller. Et puis parce qu'elle est très belle et qu'on a peur. Et donc avec un petit groupe, en particulier mon groupe d'équipe du Rosaire, on va essayer de l'animer. Ça commence par des choses très concrètes. On a monté un groupe pour la nettoyer, pour l'arranger. Et après, je vais essayer, par exemple, pour le 8 décembre, enfin, c'est pas que je vais essayer, je vais le faire, on va le faire. Le 8 décembre, qui est donc la fête de l'Immaculée Conception, on va l'ouvrir on va essayer de reproduire ce qui se passe à Lyon avec la fête des Lumières. On va mettre des lumignons tout autour de la statue de la Vierge qui est autour, qui a une très belle statue dans notre village. On va faire, j'ai demandé au maire qu'il éclaire les très beaux vitraux, qu'il les rééclaire parce que ça coûte trop cher de les avoir éclairés toutes les nuits. On va lui demander de l'éclairer cette nuit-là. on va lui demander, on va faire des réunions de prière à l'intérieur avec des intentions de prière. Voilà, l'ouvrir le plus possible. Et voilà, et on a dans notre diocèse une nouvelle équipe de prêtres qui a l'air assez mariale. Il m'a même dit que le 8 décembre, il voulait consacrer son diocèse à la Vierge Marie, donc ça tombe très bien. Et on va, avec, je pense qu'on va faire quelque chose de, on va essayer de réanimer, mais ce qu'il y a de bien...
Ça a une symbolique particulière pour vous de venir à Lourdes, alors ?
Symbolique, c'est... Je ne sais pas si ça a une symbolique. C'est simplement... ce qui est très intéressant, c'est que quand vous êtes dans la vie de tous les jours, vous n'osez pas prononcer des mots comme la Sainte Vierge, Jésus, tout le monde se... Moi, je sais que par moment, j'ai des amis, des très bons amis, ils disent, bon, ça y est, elle a son quart d'heure. Et alors, quand je parle de mes activités religieuses, ils m'écoutent bien patiemment, d'un air de dire, bon, c'est son quart d'heure, il faut la laisser. Mais ils n'en croient pas un mot. Mais quand vous venez ici, vous pouvez en parler à tout le monde, vous pouvez, et on se dit, bon, on n'est pas seul, on est nombreux. On est nombreux à croire en Dieu, on est nombreux à croire que la Sainte Vierge est apparue ici ou là, on est nombreux à croire que Jésus, au cœur sacré de Jésus, tout ça nous remotive quand même. C'est vrai que ça nous permet de nous remotiver tout au long de l'année jusqu'à l'année prochaine. Alors la symbolique, moi je pense que je suis quelqu'un d'assez marial, donc c'est effectivement... je sais pas pourquoi, pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien.
Marie-Lise Laporte, on disait il y a beaucoup de monde. Racontez-nous un petit peu l'ambiance. Vous êtes arrivée quand déjà ? Par quels moyens ? Et comment ça se passe sur place ?
Eh bien, on arrive de Toulouse, dans le car, bien organisé.
Avec les Dominicains.
Avec les Dominicains, qui part à l'heure exacte. Et en fait, le pèlerinage, la joie du pèlerinage, elle éclate déjà dans le voyage. On prie, on va à la rencontre des Pyrénées. C'est aussi la rencontre de la Sainte Vierge. Et du point de vue de l'organisation, aucun souci à se faire. Et puis, c'est vrai que ce contraste entre la foule du pèlerinage du rosaire et la désertification de nos églises, souvent fermées, et peu de gens le dimanche, eh bien, ici, cela nous redonne une énergie folle. Et c'est d'ailleurs tout à fait... proche du thème, puisque on sent bien que l'avenir de l'Église, c'est dans le fait de faire passer quelque chose de notre foi. Et ici, on se rend compte que c'est beau de prier ensemble.
Les cérémonies sont très belles, oui.
On le vit, c'est un miracle permanent d'ailleurs, grâce à toute cette belle organisation, que jamais il n'y a de faux pas, les gens se respectent, même s'ils se bousculent et ils se sourient, on n'a jamais peur, on est en confiance.
On l'a dit, on parle de 15 000 personnes. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a tous les âges, toutes les générations et tous les pays.
Et tous les pays, oui. Mais dans notre hôtel, par exemple, il y a énormément de... C'est l'océan Pacifique. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de langues différentes. Alors nous, on est regroupés par Midi-Pyrénées. Donc on n'est que 3 ou 4 tables. On est une trentaine de Midi-Pyrénées. Et là, on partage une table avec un couple de Toulousains, fort sympathique, qu'on ne connaissait donc pas. Un couple qui a probablement 80 et quelques années. Ils sont pères de 8 enfants, grands-parents de 40 petits-enfants. Et c'est une joie de les voir aller se lever très tôt le matin pour aller au Lod, bras dessus, bras dessous, revenir. C'est vraiment un bel exemple d'une belle foi et d'une belle vie. Bon, vous faites des rencontres comme ça. C'est pas tous les jours que vous allez rencontrer ce genre de personnes qui... on est chacun, même si on est de Toulouse, on est chacun dans nos diocèses. On ne va pas forcément se rencontrer. Et surtout, on partage pratiquement tous les repas. Donc, c'est fort sympathique. Après, moi, je retrouve des personnes qui font partie des équipes du Rosaire, qui sont là. Certains ont des responsabilités à la fraternité, d'autres sont brancardiers, d'autres sont hospitalières. Il y a tout un tas de métiers, entre guillemets. Tout ça est très bien indiqué, chacun a son uniforme. On a nos foulards pour indiquer de quelle région...
Les auditeurs ne le voient pas, mais on voit que vous êtes en rouge et en blanc.
Oui, alors le rouge, c'est Midi-Pyrénées. Le foulard rouge, c'est Midi-Pyrénées. Et le foulard blanc, ça indique que je fais partie des équipes du Rosaire. Voilà, alors normalement, quand on fait partie des équipes du Rosaire, on doit porter les deux foulards. Il y a beaucoup de signes comme ça extérieurs, mais... En fait, ça facilite la communication, parce que quand vous voyez quelqu'un qui a les mêmes foulards que vous, tout de suite...
Spontanément, vous allez vers lui.
Vous allez aller alors de quelle région, et dans quelle équipe, etc. Donc, ça facilite la communication. Et après, on a aussi, lors de la procession eucharistique, cette année, je suis chargée d'y aller avec la bannière de la Haute-Garonne.
C'est une belle responsabilité.
Oui, et donc on se retrouve tous avec nos bannières et nous défilons. Et les gens, au fur et à mesure qu'ils voient la bannière de leur région, eh bien, ils sortent des rangs et puis ils nous suivent. Hier, par exemple, la procession eucharistique était très longue parce qu'il y avait toutes les écoles. Il y a énormément d'écoles, il y a énormément de jeunes. Il y avait bon, évidemment les malades, c'est eux qui commencent la procession. Après les écoles, après nous, c'est un vrai défilé, c'est pas militaire, mais c'est un vrai défilé, c'est très bien organisé. On ne sait pas, ça se fait naturellement, après c'est quand même très vieux, donc il y a des gens qui font ça depuis 30, 40 ans, donc ils donnent le là, et tout se passe dans la simplicité, ça coule de source.
Marie-Lise Laporte, vous disiez tout à l'heure que quand vous venez au pèlerinage de Rosaire, vous repartez chargé à bloc. C'est ça que vous venez chercher ici?
Oui.
Ou il y a autre chose?
Oui, il y a l'énergie, mais il y a aussi la méditation et l'approfondissement de ma foi. Parce que les dominicains sont non seulement... enthousiastes, mais ils sont très très savants et il y a une foule de conférences et on a l'embarras du choix. C'est un petit problème en dehors des célébrations de choisir parmi beaucoup de sujets qui nous intéressent et en plus il le traite très souvent avec humour.
C'est important pour faire passer des messages.
Oui, c'est très important. Il faut que l'Église soit joyeuse. Je pense que c'est une dimension très importante et la malice des dominicains est souvent présente.
Le frère des Toc
en particulier.
Oui, les personnes n'ont pas voulu venir en me disant « Non, moi je vais à la messe, je ne veux pas rater le prêche du frère des Toc. »
Eh bien justement, oui, on l'a entendu dans la première partie de l'émission. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'il a dit?
Alors, toi, tu as été à une conférence où il a fait rire toute l'assemblée. La conférence qu'il a faite, c'était sur le thème... erreur de casting.
Erreur de casting.
Et alors?
Et pourquoi alors vous avez rigolé alors? Racontez-nous. Il faut oser le dire quand même,
oui.
que le Seigneur fait des erreurs de casting, faut savoir entre nous.
Eh bien, le père des Toc a commencé sa conférence en nous racontant un cauchemar qu'il fit lorsqu'il était étudiant et qu'il travaillait à l'Opéra Garnier, et où il se vit obligé de remplacer inopinément le danseur étoile. Et nous avons eu droit à une petite démonstration de son cauchemar. Et nous avons bien compris là où il voulait nous mener.
Et où il voulait vous mener justement à cette erreur de casting?
Il voulait nous montrer que, en fait, c'est par notre petitesse, c'est par notre désarroi que Dieu se sert de nous pour être missionnaire.
Vous avez assisté, vous aussi, à un prêche du... Ou oui. Une homélie, en tout cas, du frère
La première nous a impressionné. Il a commencé à dire... l'enfant Jésus, son jouet préféré, c'était les poupées russes. La stupéfaction, les poupées russes. Bon, enfin, d'accord, Joseph était charpentier, mais quand même... De là à faire des jouets en bois, on ne voyait vraiment pas. Et alors, il a commencé par ça, il nous a scotché un peu. Et donc, c'est vrai que, bon, après, la plus importante de toutes les poupées russes, c'est la plus petite, c'est celle qu'on ne voit pas. Je pense qu'il a aussi développé sur les enfants. Voilà, il a toujours des entames qui sont assez scotchantes, quoi. Et puis, oui, il a de l'humour, il est très bon prédicateur. Et on m'a dit, non, moi je préfère aller écouter le prêtre que toi. J'ai dit, vous avez bien raison, ce sera plus intéressant que ce que j'ai à dire. Mais voilà, c'est un...
Ça, c'est saisissant quand il...
Oui. Le soir, quand on s'est retrouvés à table, on s'est tous demandé comment il va rebondir. Il va rebondir sur le thème principal en commençant par des poupées russes. On s'est tous demandé comment il allait retomber sur ses pattes à la fin de l'homélie pour en arriver, donc, comme Bernadette allait dire. Mais il y est arrivé.
Et justement, on va en parler de cette thématique, comme Bernadette allait dire. Mais juste avant, je vous propose une deuxième pause musicale. On écoute « Marie nous ouvre le jour » de Daniel Facerias.
Son parfum a tracé sur ma peau une larme. Une larme qui brûle comme le soleil. Mes yeux l'ont vu partir sur la pointe d'une arme. Emmanuel, Emmanuel, soir en refermant la porte. Tu te blottissais là sur ma taille longtemps. Tu me pressais la main, tu me disais qu'importe. Si chaud dans le creux de mon cœur, il ne me reste rien qu'une douleur au ventre. Oh mon fils, mon enfant, oh j'ai si mal de toi. Oh mon fils, mon enfant, oh j'ai si mal de toi.
Radio Présence à Luchon, 94 FM. Vivante Église, Timothée Rouvière.
Et j'ai toujours le plaisir d'être en direct des studios de Lourdes pour ce Vivante Église spécial pèlerinage du Rosaire. Et avec moi autour de la table, Marie-Lise Laporte qui vient du diocèse de Rodez et Marie-Hélène Ferracha qui vient du diocèse de Toulouse. Juste avant la pause musicale, on a entamé cette troisième partie. On parlait de cette thématique du Rosaire 2022, comme Bernadette allait dire. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Le pèlerinage, là, nous déstresse beaucoup parce que, comme vous l'avez dit, on se sent des bons à rien, nous sommes des erreurs de casting, on ne sait pas parler, nous ne sommes pas des flèches. Donc avec ça, ça nous déstresse un peu. On se dit que le peu qu'on pourra dire à travers la manière dont on vit, tout simplement, la manière peut-être dont on ouvre nos églises, ce qu'on fait devrait parler à certains qui sont en recherche, qui vont s'approcher de nous. Ça va être effectivement, on est dans un monde, on est tous très conscients, très déchristianisés, et le simple fait de parler de religion est déjà très détonnant. Donc il faut y aller sans se prendre pour des flèches, quoi. Moi je fais pas grand, enfin après moi j'ai une équipe du Rosaire. Voilà, dans mon village, c'est déjà... entre nous, on se soutient. Entre nous, on peut parler de ces choses-là. Qui, comme je disais, c'est très difficile d'en parler dans la vie avec d'autres personnes. Et après, avec ce petit groupe, ben, on va essayer d'augmenter, de faire quelque chose qui fait que des gens auront envie peut-être de venir au pèlerinage, de se confier à Sainte Vierge, de venir à nos réunions de prière, de venir dans les églises, au fond, pour voir ce qui s'y passe. C'est rien d'extraordinaire.
Marie-Lise Laporte, c'est un appel à l'élan missionnaire, cette thématique du rosaire, comme Bernadette allait dire.
Oui. Personnellement, je ne parle pas facilement de ma foi et je comprends que c'est surtout notre vie qui doit poser des questions et qu'à ce moment-là, on peut répondre à des questions. Mais par contre, je suis en but dans cette société. Dès que des gens savent que je pratique, eh bien... à une attitude qui n'est pas agnostique, mais qui est vraiment de l'athéisme, quoi. On masticote. Eh bien, je voudrais leur faire comprendre que ils sont, surtout qu'ils nous, ils nous reprochent un peu notre intégrisme, notre rigorisme, et je trouve qu'en fait c'est eux qui viennent nous chercher avec leur certitude, alors que je suis une espérante plus qu'une croyante et toujours en recherche.
Chaque jour, il y a des sous-thématiques, celle du mercredi comme des petits allaient dire, celle du jeudi comme des serviteurs allaient dire, celle d'aujourd'hui comme des blessés allaient dire et celle de demain comme des prophètes allaient dire. C'est-à-dire que chaque pèlerin est petit, serviteur, blessé, prophète ?
Oui, je pense, oui. Je pense qu'on est tous un peu, on porte un peu tous ça et que on, du coup, on peut parler un peu aussi à tout le monde, aussi bien... aux blessés, qu'aux petits, on se sent un peu tout ça.
J'aimerais qu'on parle un petit peu du programme de ce qui vous attend. Il reste encore une journée pleine. Qu'est-ce qui vous attend ? Est-ce que vous allez toutes les deux participer à des conférences ? On sait qu'il y a la procession au flambeau tous les soirs. Racontez-nous un petit peu.
Alors, moi, j'ai fait pratiquement la retraite qui est sur le thème donc, de l'année « Allez dire ». Et je vais la continuer, donc c'est quand même deux fois par jour.
Qu'est-ce que vous y faites concrètement ?
J'écoute le dominicain qui explique à travers des exemples. Donc il avait pris la dernière fois les exemples de Saint François d'Assise et de Saint Dominique, qui étaient à une époque, qui étaient contemporains et qui étaient à une époque de déchristianisation aussi, puisque Saint François s'était posé la question de reconstruire son église d'abord physiquement, puis après il avait compris que c'était ailleurs. Et Saint Dominique, il était dans la région toulousaine en plein catharisme. Donc il y avait, Sainte Catherine qui, elle, a essayé ou a fait déménager le pape. À travers des gens qui, bon, eux sont célèbres, ils nous feront passer des... On va arriver à la dernière, qui sera donc cet après-midi, où il va essayer de nous expliquer, à travers un développement donc, de plusieurs jours, comment nous être prophètes. Après, moi, il y a le chapelet à 16h avec le frère Détoc, aussi, qui est un grand moment. Tous prier le chapelet à des centaines de voix, c'est impressionnant. Et là aussi, ces visions des mystères sont très intéressantes. Le choix est énorme. Alors, il faut, comme tout choix, c'est renoncer à certaines choses. Donc, il y a peut-être des choses qu'on aura ratées. Mais c'est le soir, après, on partage entre nous à table. On nous dit. Ouais.
C'est aussi ça, le rosaire, c'est où il y a les conférences, la messe, les laudes, le chapelet. Mais c'est aussi tous les temps un petit peu annexes qui vont faire le lien, les repas, les rencontres.
Oui, c'est ça aussi. Oui, bien sûr. C'est tout ça qui fait qu'on. On partage. Après, on peut aller sous des tentes. Il y a les tentes où on peut aller discuter, par exemple, avec les équipes du Rosaire. On peut aller discuter avec les fraternités pour savoir ce qu'ils font, qui ils sont. Il y a des enfants qui vous... Enfin, des enfants, oui.
Des jeunes.
Des jeunes qui vous donnent des petits papiers pour mettre vos intentions de prière et ils font une espèce de grande guirlande autour de la Vierge. Cette année, il ne distribue pas d'eau parce qu'il ne fait pas si chaud que ça. Mais tout un tas d'échanges qui peuvent se faire spontanément avec ces jeunes, avec les gens qui vous abordent pour 36 raisons ou pas du tout. On se retrouve en silence les uns à côté des autres, à processionner, pour l'Eucharistie, la procession eucharistique, soit le soir à la retraite au flambeau. La retraite au flambeau, hier soir, on était vraiment... ça a beaucoup de succès, la retraite au flambeau. C'est impressionnant de voir toutes ces chandelles allumées dans la nuit. Et c'est un grand moment, oui. La retraite au flambeau qu'on ne raterait pas.
Marie-Lise Laporte, le mot de la fin sur ce pèlerinage du Rosaire.
Le mot de la fin. Eh bien, cet après-midi, je vais aller à une conférence sur l'Ukraine. Et parce que justement, cette grande collectivité de chrétiens, ça nous ramène à l'universel et que c'est quelque chose quand même qu'on comporte, cette impossibilité de faire quoi que ce soit, nous tout petits, alors que les grands qui voudraient la paix aussi, je sais que c'est d'abord dans nos cœurs qu'il importe de faire la paix chaque jour, mais je pense que la paix intérieure, au moins ici, chacun peut la trouver.
Et on terminera là-dessus, on arrive à la fin de cette émission, vous voyez, c'est passé très vite, je vous l'avais promis. Tout de suite, on écoute l'agenda de l'Église dans votre région.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
Bonjour à tous, débutons cette Église Actualité avec un concert de musique orientale de la Méditerranée jusqu'aux confins de l'Asie qui est organisé dans le cadre de la saison musicale de Belfond-la-Rose 2022. Les musiciens sont Emmanuel Troy et Luc Girardeau. Rendez-vous est donné à l'église de Valroufi à 18h. De son côté, le service des vocations de Toulouse organise la demi-journée de lancement du parcours Sentinelle de l'Invisible pour les 18-30 ans. Un parcours d'octobre à juin pour approfondir sa vocation de femme chrétienne. Il sera composé de 6 week-ends de découvertes dans différentes communautés de la région. Cette demi-journée a lieu à l'église Saint-Pierre des Chartreux à Toulouse dimanche. Information auprès de Sentinelle avec un S de l'Invisible 31@gmail.com. Sentinelle avec un S de l'Invisible 31@gmail.com. Et pour conclure cette église actualité, deux messes d'installation à noter. La première, celle de l'abbé Michel Pagès au sanctuaire Saint-Jérôme, dimanche à 10h30, en présence de l'archevêque du diocèse de Toulouse, Monseigneur de Quérimel. La deuxième a lieu à l'église paroissiale de Tournai pour l'installation du père Christophe Mouana Mpoutou comme curé de l'ensemble paroissial de Tournai. La messe a lieu dimanche à 11h. C'est la fin de cette église actualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'être fidèles à ce rendez-vous de l'agenda de l'église dans votre région. Rendez-vous lundi pour de nouvelles actualités de l'église dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à mes deux invités d'être venus, d'avoir accepté de louper la messe pour venir témoigner. Bonne fin de pèlerinage à toutes les deux. Merci beaucoup.
Merci,
Timothée. Merci aussi à Gilles Gabardi et à Christophe Aubry à Toulouse d'avoir réalisé la technique, d'avoir permis la réalisation de cette émission. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à notre antenne. Rendez-vous lundi pour une nouvelle émission et nous parlerons du rôle des sacristains. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de Radio Présence et encore merci à cette équipe de Lourdes de nous avoir chaleureusement accueillis.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.